Mais qu'est-ce qu'on trafique donc dans ces espaces non mixtes ? Quand on explique ce qu'est la non-mixité, on s'adresse souvent aux personnes qui en sont de fait exclues et on se concentre à expliquer pourquoi elles en sont exclues. Un peu pour se justifier, mais aussi pour s'assurer que cette non-mixité sera respectée. Ok, souvent, quand on se réunit dans des formes de non-mixité, ça peut permettre de vivre des moments à l'abri de certains systèmes de domination. Mais la non-mixité n'est pas qu'un abri. La considérer juste ainsi ne nous rend pas plus fortes, parce que nous n'avons pas tant besoin de nous protéger que de nous organiser. C'est un outil à l'intérieur duquel on fabrique de nouveaux imaginaires, des solidarités, des réflexions, des luttes, des rapports de force, de l'autonomie. Parfois, les non-mixités spécifient plusieurs identités, car nous considérons qu'il est important et riche de s'organiser ensemble autour de questions, de réalités, de choix de lutte, etc. La non-mixité ne nous débarrasse pas de tous les systèmes d'oppression qui sont multiples et s'entrecroisent, mais elle nous permet de nous extraire de certains pour s'organiser et nous penser nous-mêmes. Croiser les vécus, se rendre compte de leurs similitudes pour finalement saisir des réalités sociales et comprendre des fonctionnements de la société. Construire des complicités avec d'autres personnes que des individus issus de la classe dominante. Fabriquer des luttes entre personnes concernées. Imaginer et construire d'autres manières d'interagir et de coexister entre personnes portées par une même volonté de résistance. Se sentir forte ensemble. Il existe donc une multitude de non-mixités. Meufguine trans face au patriarcat, transpédéguine face à l'hétérosexisme, racisée face au racisme, handi face au validisme, grosse face aux normes corporelles, trans face au monde binaire et sexué. Sachant aussi que des non-mixités se réunissent pour se remettre en question sur leur posture dominante, par exemple non-mixité gay qui parle du sexisme ou non-mixité meufguine trans blanche qui parle du racisme. Bref, plein de choses plus ou moins complexes. Les non-mixités apparaissent avec des luttes et des gens qui s'organisent en tant qu'oppressés et ou dominantes, sachant que chaque personne cumule souvent plusieurs postures dominantes et plusieurs postures oppressées. Finalement, on a toujours de bonnes raisons de se réunir.
Bonjour, alors bienvenue sur Radio Camus 102.2 pour une émission commune Lilith Martin et les autres. Et on n'est pas des cadeaux. Là, on m'entend. Ah, voilà. Donc une émission commune Lilith Martin et les autres et on n'est pas des cadeaux autour des non-mixités.
Cette fois ça marche. Ah ouais, donc une émission commune, je répète, Lilith, Martine et les autres, et on n'est pas des cadeaux, autour des non-mixités. Alors le texte qu'on vient d'entendre, c'est un texte qui a été écrit par des féministes grenobloises pour un peu présenter les soirées non-mixtes ou pouvoir avoir ce texte comme outil pour discuter autour des non-mixités.
Alors, donc c'est une émission où on va discuter des non-mixités. Nous-mêmes, on pratique des non-mixités différentes, notamment dans nos collectifs de radio, où on a choisi des non-mixités différentes, justement, puisqu'on a la non-mixité transpédéguine pour On n'est pas des cadeaux, et meufguine trans pour Lilith Martin et les autres, mais deux non-mixités qui sont féministes.
Et donc actuellement on n'est pas complètement satisfaite de l'utilisation des non-mixités dans nos milieux féministes, mais ce qui est normal parce qu'il y a toujours à penser, à repenser, à améliorer, etc.
Et notamment nous, la naissance de cette émission, c'est un petit peu une colo qui s'est fait cet été, une colo en non-mixité gouine et trans. Et une partie des discussions qui ont été faites, c'était d'aborder justement quelle non-mixité, pourquoi, quel sens ça a, etc.
Et du coup, on pense par exemple que dans ce qui a amélioré, c'est que certaines non-mixités féministes sont maintenant devenues évidentes et des fois on réfléchit moins à la pertinence politique de ce qui nous amène à réfléchir ensemble, à vouloir partager des espaces politiques et de lutte. Et donc, comme on est très DIY, on a décidé de s'y mettre et de réfléchir. Et cette émission radio, c'est qu'un début.
Et donc, on veut réfléchir les non-mixités pour progresser, pour s'améliorer, pouvoir construire de solides solidarités. Et donc, dans une première partie, aujourd'hui, on va aborder un peu la question de pourquoi nous, on pense que la non-mixité, c'est un outil politique. Et comment ça a émergé? On parle bien sûr là des non-mixités choisies et pas imposées. Et comment ça a émergé? Et quelles critiques et apports il y a déjà eu au niveau des réflexions autour de cette question-là? Ensuite, on va réfléchir aux objectifs politiques de cet outil et pourquoi c'est intéressant d'y réfléchir. Et enfin, on discutera rapidement des limites et des nécessités qu'on ressent parfois à définir ces non-mixités par des identités.
Et ben maintenant, on va écouter un petit morceau. We are family, babes in Thailand. We'll be right back.
Donc maintenant, on va parler un peu de l'outil politique et comment il est pertinent, l'outil politique de la non-mixité et sa pratique. Ça vient pas mal des luttes d'émancipation, c'est-à-dire des luttes par les opprimés, pour les opprimés. Et cet outil politique, il a été utilisé, en tout cas, il a été réutilisé par le mouvement américain pour les droits civiques dans les années 60. Ah, parce qu'après quelques années de lutte en mixité, le mouvement a décidé de créer des groupes noirs, donc fermés aux blancs, et pour plusieurs raisons. Déjà pour que les expériences de discrimination et les humiliations vécues puissent se dire sans qu'il y ait besoin de se poser la question de la présence des dominantes et des dominants. Pour que la rancœur et la colère puissent s'exprimer. Et aussi pour éviter que les représentantes et les représentants des groupes dominants, ils aient plus de poids dans les décisions. À cause de un peu l'admiration qu'on vouerait aux dominants ou aux dominantes, ou en tout cas, plutôt de notre éducation, de toute notre vie, où on apprend qu'un blanc est plus fiable qu'un noir, qu'un homme est plus fiable qu'une femme, etc. Parce que dans les groupes mixtes, c'est souvent la façon dont le groupe dominant voit l'oppression qui prévaut. Or, pour que les luttes soient réellement émancipatrices, nous, on pense qu'il faut que ce soit les opprimés qui définissent leur oppression et les modalités de la lutte. En gros, ça veut dire « seuls les opprimés savent ce qui est bon pour elles et eux ». Et pour que les opprimés définissent leur oppression, eh ben, l'expérience de la non-mixité, elle est essentielle, parce qu'elle permet de se soustraire à un système d'oppression, et donc de pouvoir voir, de pouvoir observer comment certaines dynamiques, elles sont bien systémiques, c'est-à-dire que ce qui nous arrive ne vient pas de nous en tant qu'individus, mais ça nous arrive parce que nous appartenons à une classe dominée. Alors pour illustrer un peu ça, je vais vous raconter un peu, en fait je me souviens de la première fois où je me suis réuni avec des amis trans, et bien les expériences qu'on a partagées à ce moment-là, tout ce qui nous arrivait, c'est ça qui a fait qu'on s'est rendu compte que les discriminations que l'on vivait se regroupaient en un système, c'est-à-dire le système cissexuel. C'était plus seulement des remarques désobligeantes, discriminantes, c'était des remarques, c'était des insultes, c'était des coups qui venaient renforcer un système qui veut que les personnes trans n'existent pas ou que le fait de changer de genre est quelque chose de maladif, qu'en tout cas, ça ne sera jamais vraiment possible, ou du moins la société fera en sorte de le rendre impossible. Une autre chose encore qui prouve à notre sens que c'est un outil politique pertinent, c'est que ça dérange. Alors autant les groupes dominants acceptent avec plus ou moins de bonne volonté les luttes des opprimés, mais quand même, ça reste des luttes de second plan, parce que bon, faut pas pousser quoi. Par exemple, je crois qu'un certain nombre de gars peuvent accepter l'idée que les femmes sont opprimées, notamment qu'elles sont moins payées pour un même travail, etc. Donc, ils peuvent accepter l'idée qu'elles luttent pour arriver à une certaine égalité, peut-être aussi parce qu'ils ne croient pas vraiment qu'elles vont y arriver, quoi. En revanche, ils ne peuvent pas accepter l'idée de ne pas faire partie de cette lutte. Ils ne peuvent pas accepter l'idée que des espaces leur soient interdits et que des femmes, entre guillemets, s'organisent sans eux. Ça les dépasse complètement. Et le nombre de polémiques qu'il existe sur les espaces non mixtes féministes, ça illustre bien que pour les dominants, il ne faudrait pas s'organiser sans eux, que ça les fait flipper, que c'est une sorte de perte de contrôle. Et à titre d'exemple, on a pu voir, c'était le printemps dernier, toute une polémique autour des espaces non mixtes à la ZAD, et c'était des textes de gars qui disaient que vraiment ils étaient opprimés par les non-mixités féministes, etc., etc. Et du coup, ça montre bien que l'outil des non-mixités, il questionne vraiment les dominants. Maintenant, autour de ces non-mixités, il y a des critiques qui ont été formulées. Alors, bien évidemment, je parle de critiques internes, c'est-à-dire faites par des personnes qui s'organisent dans ces non-mixités, parce que, bon, les critiques externes, on les connaît et on s'en fout un peu. Donc, les critiques, elles portent plus sur comment sont définies les non-mixités, et pas sur l'outil en lui-même. En fait, des non-mixités se sont créées autour de la notion d'oppression commune, notamment les non-mixités féministes, c'est-à-dire que ce qui rassemble les personnes, c'est le fait d'être opprimées de la même manière, pour les mêmes raisons. Or, cette notion d'oppression commune, elle est fortement critiquée au sein des mouvements féministes, et notamment par les féministes racisées. Et là, on va lire un texte de Belloux qui date de 1986, mais qui est encore vraiment d'actualité. Belloux, qui est une black féministe des États-Unis et qui critique cette notion d'oppression commune. Alors, même si c'est le contexte états-unien et que c'est pas pareil que le contexte français, en fait, les notions de sororité, c'est-à-dire de solidarité politique entre les femmes, et d'oppression commune, elles sont aussi utilisées en France. Et Belloux, elle vient interroger l'universel blanc et bourgeois. Et en effet, de quelle oppression commune parle-t-on ?
Alors, les femmes constituent le principal groupe victime de l'oppression sexiste. À l'instar d'autres formes d'oppression collective, le sexisme est perpétué par des structures institutionnelles et sociales, par les individus qui dominent, exploitent ou oppriment, et par les victimes elles-mêmes, amenées par la socialisation à adopter des comportements qui les rendent complices du statu quo. L'idéologie de la suprématie masculine incite les femmes à penser qu'elles ne valent rien, tant qu'elles ne sont pas liées ou unies à des hommes. On nous enseigne que les relations que nous entretenons les unes avec les autres amoindrissent notre expérience au lieu de l'enrichir. On nous enseigne que les femmes sont naturellement, entre guillemets, ennemies des femmes, que la solidarité n'existera jamais entre nous parce que nous ne pouvons et ne devons pas nous unir les unes aux autres. Nous avons bien appris ces leçons. Nous devons les désapprendre pour construire un mouvement féministe durable. Nous devons apprendre à vivre et à travailler dans la solidarité. Nous devons apprendre le véritable sens et la vraie valeur de la sororité. Alors que le mouvement féministe contemporain aurait dû former les femmes à la solidarité politique, la sororité n'a pas été envisagée comme un accomplissement révolutionnaire que les femmes s'efforceraient d'atteindre par la lutte. Telle que la concevaient les mouvements de libération des femmes, la sororité se fondait sur l'idée d'une oppression commune. Il va sans dire que ce furent surtout les femmes de la bourgeoisie blanche, de tendance libérale ou radicale, qui cultivèrent la notion d'oppression commune. L'oppression commune était un mot d'ordre mensonger et malhonnête, qui masquait la véritable nature de la réalité sociale vécue par les femmes, sa complexité et sa variété. Les attitudes sexistes, le racisme, les privilèges de classe et toute une pluralité d'autres préjugés divisent les femmes. Elles ne peuvent s'unir durablement qu'à condition de reconnaître ces divisions et de prendre les mesures nécessaires à leur élimination. Certes, il est important de mettre en lumière les expériences vécues par l'ensemble des femmes. Mais il existe aussi des clivages, et ce n'est pas avec des vœux pieux et de belles idées romantiques qu'on les fera disparaître. La sororité est passée à l'arrière-plan parce que beaucoup de femmes, irritées par les grands discours sur l'oppression commune, l'identité partagée et la ressemblance, ont critiqué, voire rejeté le mouvement féministe dans son ensemble. L'appel à la sororité a en effet souvent été perçu comme une manœuvre manipulatrice et opportuniste des bourgeoises blanches, un vernis rhétorique servant à masquer l'exploitation et l'oppression perpétuée par des femmes sur d'autres femmes. S'il est vrai que nous avons beaucoup à gagner à nous unir, nous ne pouvons pourtant pas développer de liens durables, ni de véritable solidarité politique à partir du modèle de sororité créé par la tendance bourgeoise du féminisme. Pour ce courant, l'union des femmes se fonde sur une expérience collective de la victimisation, d'où l'importance de la notion d'oppression commune. Cette conception du lien entre les femmes reflète directement la pensée de la suprématie masculine blanche. L'idéologie sexiste enseigne aux femmes que la féminité implique d'être une victime. Au lieu de rejeter cette équation, qui ne rend pas compte de l'expérience féminine car dans leur vie quotidienne, la plupart des femmes ne sont pas constamment des victimes entre guillemets passives et vulnérables, les féministes y ont souscrit, faisant de la condition de victime le dénominateur commun qui permet aux femmes de s'unir. Les femmes devraient se concevoir comme des victimes entre guillemets, pour se sentir concernées par le mouvement féministe. L'union des femmes victimes semblait impliquer que les femmes sûres d'elles-mêmes et indépendantes n'avaient pas leur place dans le mouvement féministe. C'est cette logique qui a amené plus d'une militante planche, aux côtés des hommes noirs entre parenthèses, à suggérer que les femmes noires étaient si fortes qu'elles n'avaient pas besoin de s'impliquer dans le mouvement féministe. Et c'est pour cela que beaucoup de femmes blanches ont quitté le mouvement quand elles ont cessé de se représenter comme des victimes. L'ironie est que les femmes qui ont le plus revendiqué le statut de victime étaient souvent plus privilégiées et avaient plus de pouvoir que la grande majorité des femmes de notre société. Les travaux sur les violences faites aux femmes permettent d'éclairer ce paradoxe. Les femmes qui subissent quotidiennement l'exploitation et l'oppression ne peuvent se permettre de renoncer aux sentiments qu'elles exercent, un tant soit peu de contrôle sur leur vie. Elles ne peuvent se permettre de se penser simplement comme des victimes, car leur survie dépend de leur capacité à exercer sans relâche le peu de pouvoir personnel dont elles disposent. Ces femmes compromettent leur équilibre psychologique si elles s'associent à d'autres femmes sur la base d'une condition victimaire commune. C'est sur la base de forces et de ressources communes qu'elles s'associent à d'autres femmes. Tel est le type de lien qui constitue l'essence de la sororité. À partir du moment où les féministes se définissaient comme une association de victimes, elles n'étaient pas tenues de se confronter à la complexité de leur propre expérience. Elles ne se sentaient pas obligées de se remettre en question, de s'interroger sur l'influence du sexisme, du racisme et des privilèges de classe dans leur perception des femmes qui ne faisaient pas partie de leur groupe racial et social. Le fait de s'identifier comme victime leur permettait d'abdiquer toute responsabilité dans la construction et la perpétuation du sexisme, du racisme et de l'exclusion sociale. Ce qu'elles firent en insistant pour que seuls les hommes soient considérés comme des ennemis. Elles évitaient ainsi de reconnaître l'ennemi intérieur et de s'y confronter. Elles n'étaient pas prêtes à renoncer à leurs privilèges et à effectuer le sale boulot, indispensable au développement d'une conscience politique radicale, c'est-à-dire la lutte et la confrontation que réclament la politisation et toutes les tâches fastidieuses qui font partie du quotidien militant. Ce travail doit commencer par une critique et une évaluation personnelle honnête de son statut social, de ses valeurs, de ses croyances politiques. La sororité a donc fini par devenir un nouveau moyen de fuir la réalité. Cette conception de la solidarité entre femmes était déterminée par une certaine représentation de la féminité blanche, fondée sur des préjugés de classe et de race. Il fallait protéger la lady blanche, la bourgeoise, de tout ce qui aurait pu la déranger ou la déstabiliser, en la mettant à l'abri des réalités négatives susceptibles de conduire à la confrontation. En ce sens, la sororité prescrivait aux sœurs un amour mutuel inconditionnel. Elles devaient éviter le conflit et minimiser les dissensions. Elles ne devaient pas se critiquer les unes les autres, surtout en public. Pendant un temps, ces règles créèrent une illusion d'unité qui neutralisa les rivalités. L'hostilité, les désaccords perpétuels et la critique outrancière, qui était souvent la norme dans les groupes féministes. Aujourd'hui, cette interprétation de la sororité se retrouve dans de nombreux sous-groupes constitués sur des identités communes. Travailleuses WASP, universitaires blanches, anarcho-féministes. Si leurs membres se soutiennent et se protègent mutuellement, elles considèrent en revanche, avec une hostilité souvent incroyable, les femmes qui ne font pas partie de leur groupe.
Elles permettent la soustraction à certains systèmes d'oppression, elles n'annulent pas tous les systèmes, donc des oppressions perdurent à l'intérieur des non-mixités. Mais par exemple, dans les non-mixités féministes, femmes ou trans, il y a du racisme, il y a du classisme, il y a de l'hétérocentrisme. Et puis aussi, on a une réelle difficulté. Enfin, il y a une réelle difficulté des personnes opprimées de se rendre compte et d'accepter qu'elles oppriment également. Une autre critique, c'est un peu c'est des non-mixités évidentes. Dans les espaces féministes, il y a une certaine tendance à utiliser une non-mixité par défaut, un peu comme si c'était la mieux. Alors, elle a évolué au fil des réflexions. On parlait de non-mixité femme d'abord, et depuis, les gouines et les trans sont venus se rajouter en apportant leur discours et leur vécu. Donc aujourd'hui, dans nos réseaux anarcho-féministes, beaucoup d'événements, de soirées, etc. sont en non-mixité femmes, gouines, trans. Mais parfois, on ne sait pas trop pourquoi. Ou alors, on sait pourquoi, mais rien n'est fait pour que ce soit réalisable. Ah ouais, parce que quand même, il ne suffit pas d'écrire des mots sur une affiche ou sur un flyer pour que ça rende possible ces non-mixités dans ces espaces. Donc, à notre sens, il faudrait beaucoup plus systématiquement réfléchir aux objectifs politiques des espaces ou des événements que l'on crée. Se poser la question de avec qui on a envie de s'organiser et à qui s'est adressé. Mais aussi, il faut continuer à réfléchir et fabriquer des outils pour rendre possible les non-mixités que l'on veut.
Donc, dans une deuxième partie, on voulait parler un peu de cette histoire d'objectifs politiques. Parce que si on se met dans une perspective de lutte, ou en tout cas dans une perspective politique, les non-mixités doivent être un outil qui sert un objectif. Alors, dit comme ça, ça fait un peu sérieux, mais en vrai, un objectif, ça peut être la convivialité, tout simplement, ou passer un bon moment ensemble, tout ça. Et selon qui on a envie qu'il ou elle se sente bien, qu'elle vienne, on va poser une certaine non-mixité. Alors, on a essayé de réfléchir un peu à ce que peuvent être différents objectifs politiques des non-mixités. Donc, je vais en citer quelques-uns. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. C'est juste pour donner des exemples et pour qu'on s'entraîne un peu à ce que ça devienne un peu systématique de se poser cette question de ben, pour quel est mon objectif politique là en faisant cet espace et du coup quelle non-mixité va être la plus pertinente et comment je vais la définir. Alors déjà bah, comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a l'objectif de prendre conscience d'un système d'oppression et de sortir du vécu ou d'expériences purement individuelles et d'arriver à les partager ensemble. En s'enlevant du coup bah, comme ça a été dit plus tôt hein, le regard du dominant et du coup de pouvoir partager soit les humiliations, les agressions qu'on a subies, etc. sans le regard du dominant qui est là. Donc là on va avoir une non-mixité vraiment qui va permettre de monter en politique un petit peu les expériences individuelles. Ensuite, on peut avoir pour but d'enlever juste un type d'oppression bien identifié pour tout simplement vivre sans, pour réussir à s'organiser sans avoir à s'en justifier, sans avoir à justifier de nos décisions ou de faire de la pédagogie avec les personnes qui remettront en question les choix qu'on fait sur le moment. Et du coup, ça permet de gagner en autonomie face à cette oppression. Et d'arriver à s'organiser malgré ça et sans ça, et sans les personnes qui l'exercent. Un autre objectif, ça peut être de faire apparaître une identité ou des personnes qui, sinon, si on n'est pas dans un espace non mixte ou dans un lieu non mixte ou dans une organisation non mixte, ben c'est des personnes qui vont être complètement invisibilisées par la norme du groupe. Donc c'est vraiment là de montrer, ben voilà, on est ça, et on existe, on est plusieurs, on est même un groupe de ça. Et une autre question sur cette question de visibilité un peu, eh ben, on peut utiliser la non-mixité, par exemple, pour visibiliser une action ou un comportement qui serait un peu subversif, on va dire, pour mettre en évidence en fait ce comportement déviant. Par exemple, on peut imaginer des actions en non-mixité, personnes pas épilées, qui vont ensemble à la piscine. Et du coup, là, on voit bien qu'on va mettre en évidence, on fait ça, on a ce comportement-là, et on va dans ces endroits où on est mal reçu. Mais voilà, du coup, ça c'est encore un autre objectif. Et enfin, ça peut être tout simplement de se créer du vécu commun, un passé, un présent, et puis surtout ben, une culture alternative, une culture subversive commune qu'on partage à plusieurs et sur des moments vécus ensemble en non-mixité. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission spéciale Lilith Martin et les autres et on n'est pas des cadeaux et on vous parle des non-mixités. Donc là, après avoir listé un petit peu plusieurs objectifs politiques qui pouvaient avoir pour outil la non-mixité, on voulait un petit peu discuter de pourquoi c'est important de se poser la question justement de est-ce que c'est le bon outil, comment je l'utilise et comment je définis cette non-mixité. Alors encore une fois, notre objectif ici, c'est pas de remettre en cause ce qui existe, parce que, ben, comme on l'a dit plus tôt, nous-mêmes, on fait plein de trucs en non-mixité et on trouve ça super. et du coup, le but, c'est vraiment là de renforcer nos pratiques en y réinjectant du sens et en visibilisant ce qui se passe quand on oublie de réfléchir un peu et qu'on prend les non-mixités comme des évidences. Du coup, se poser toutes ces questions, ça permet de se rendre compte, donc la question de qu'est-ce que c'est mon objectif politique, quelle non-mixité va, ça permet de se rendre compte si la non-mixité qu'on avait choisie, en fait, elle, c'est pas la plus pertinente là, pour ce qu'on veut faire. Ou alors que finalement, on n'a pas suffisamment réfléchi à notre objectif et peut-être c'est bien de se poser pour le faire parce que sinon, ça peut avoir de fâcheuses conséquences que je m'en vais vous lister. Par exemple, ça peut avoir pour conséquence l'exclusion de fait de personnes à cause de préjugés. Et du coup, ça fait aussi que ça renforce ces préjugés. Donc, on va avoir un petit exemple, une petite illustration.
Une petite illustration. Alors, c'était la manif de nuit organisée à Grenoble dans le cadre des Journées internationales sur les violences. Sur les violences faites aux femmes, du coup c'était, cette journée elle a lieu le 25 novembre et du coup la manif elle était dans ces eaux-là et elle était appelée en non-mixité femmes, lesbiennes, transsexuelles et du coup là on peut se dire que bon il y a déjà un truc que cette non-mixité elle est questionnante, on se dit que les objectifs ils ont pas été je pense suffisamment éclairci pour amener à une non-mixité qui fait sens parce que par exemple femme, lesbienne, transsexuelle, deux LE, j'ai oublié de préciser parce que on est à la radio du coup pourquoi elle est questionnante cette non-mixité parce que ça voudrait dire que les personnes bon, transsexuelles qui est déjà un terme qui est assez connoté médical, mais si on veut utiliser ce terme transsexuel, deux LE, ça voudrait dire qu'on ne les met pas dans les catégories ni femmes ni lesbiennes, et ça c'est vraiment problématique. Donc ça c'est déjà une chose. Et puis aussi que si les objectifs politiques, ils étaient clairs, si par exemple cette marche elle était autour du sexisme, eh ben c'est questionnant de pas autoriser cette marche à une partie des personnes qui vivent le sexisme, qui sont l'autre partie des trans. Du coup, qui sont pas dans le E2LE, quoi, qui sont les trans F2X, F2M, qui sont donc des trans masculins, mais qui, pour la plupart d'entre eux, continuent à vivre des situations sexistes, ou en tout cas à continuer de vivre du sexisme. Du coup, voilà d'où l'importance à chaque fois de se dire mais quels sont nos objectifs quand on organise des événements ?
Merci pour cette illustration. Et donc, une autre conséquence, ça peut être que, si on n'explique pas assez les termes de la non-mixité, qu'est-ce que c'est nos objectifs politiques qui vont avec cette non-mixité-là, et qu'on n'anticipe pas le fait qu'il peut y avoir des préjugés, justement, comme on vient de le dire, ça peut faire qu'il y a des personnes qui vont se sentir plus légitimes dans les catégories qui sont nommées dans la non-mixité et qui vont, se sentir plus légitimes ou juste pas imaginer qu'il y a d'autres personnes qui peuvent, que ce qu'elles se représentent, qui peuvent aussi faire partie de cette non-mixité-là. Et du coup, ça va faire que les personnes justement qui se correspondent moins ou correspondent pas aux préjugés que les autres avaient, elles vont se sentir hyper mal accueillies et peut-être ne plus revenir et ne plus se sentir appartenir à cette non-mixité-là. Du coup, tout ça pour dire que réfléchir en amont et anticiper, ça permet de mettre en place un accueil adéquat. Et notamment, on a des outils pour ça, puisqu'on a un petit texte là qu'on va vous lire.
Et ouais, le petit texte dont on avait déjà lu un premier extrait au début de l'émission. Alors ça donne. Concrètement, lorsque vous êtes invité à un événement en non-mixité meuf, Queen trans, par exemple, ça veut dire que dans cet endroit, il n'y aura sûrement pas que des meufs, et que c'est plutôt bienveillant de ne pas supposer que toutes les personnes en présence sont des meufs, même si d'un premier coup d'œil, c'est pas si évident. Certaines personnes invitées seront en fait sûrement des queens, donc pas forcément des meufs, et certaines personnes invitées seront aussi sûrement des trans, donc pas forcément des meufs. Et si, dans ces espaces féministes, certaines personnes ont des apparences plutôt ou carrément masculines, il est nécessaire de ne pas présupposer qu'elles ne sont pas à leur place. Si elles sont là, c'est qu'elles se sentent légitimes d'y être et doivent être bien accueillies sans devoir être confrontées à de la méfiance. Les intrusions volontaires et provocatrices de la part des personnes anti-non-mixité existent, sont visibles et se gèrent collectivement. Mais nous ne devons pas tout le temps être suspicieuses et nous devons prendre en compte qu'il n'est pas simple de rejoindre des espaces où notre apparence pourrait paraître décalée. Nous voulons que toute personne invitée se sente à l'aise et respectée.
Voilà, donc ça c'est un exemple hein, d'accueil adéquat pour pouvoir expliquer aux personnes, leur dire, ben voilà, tu arrives dans cet espace, c'est un espace meuf green trans, donc oui, il peut y avoir des personnes avec une apparence masculine, voilà, c'est faire un peu de pédagogie là, pour que ce soit pas du coup toujours les mêmes personnes qui le fassent. Donc, ensuite, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer, si on n'explique pas bien la non-mixité de l'événement, si on l'explique qu'avec des mots qui nous parlent à nous, eh ben, on peut avoir cet effet de jargon qui fait que ben, des personnes ne vont pas comprendre qu'elles font partie ou ne vont pas se sentir invitées dans la non-mixité. Par exemple, bah, si on reprend la non-mixité meuf ou une trans, selon qui on a envie qu'elles viennent, eh ben, si elles se définissent comme femmes, ben, elles vont pas capter en fait que meuf ça marche pour elles, ou alors ça va avoir l'air trop jeune, ou ça peut, enfin voilà, du coup il faut bien réfléchir aussi à comment on adapte les termes par rapport à qui on veut inviter et qui on veut que qui on veut qu'elles se sentent bien, voilà. Et puis enfin, un autre travers que nous, on avait envie de noter ici, c'était le fait que des fois, on sert un peu de la... Enfin, on définit en tout cas la non-mixité du moment, du lieu, etc. Plus par comment sont déjà constitués nos réseaux affinitaires et pas comme un truc de... Ben, on se donne la peine de réfléchir à ça et de mettre en place justement un accueil pour les personnes nouvelles qui veulent y participer. Et en fait, ça crée un espèce de floutage entre les fonctionnements... affinitaires et les fonctionnements plus formels, et du coup on sait pas trop là si c'est un espace ouvert ou un espace entre potes. Du coup soit on fait une soirée entre potes puis on l'assume comme telle et puis on invite ses potes, soit on définit une non-mixité et on agit pour que les personnes qui arrivent, qui sont nouvelles et qui correspondent à cette non-mixité, et ben puissent se sentir accueillies aussi. Voilà, un peu. Bon, à l'inverse, hein, pour continuer sur des touches positives et pourquoi ça nous renforce et que ça redonne du sens à tout ça, là, de se questionner. Bref, pourquoi c'est cool de réfléchir les non-mixités. Eh bien, c'est aussi que ça permet ensuite d'assumer les choix qu'on fait, et qu'en assumant les choix qu'on fait, en définissant des non-mixités qui sont peut-être plus originales, moins courantes, voilà, et ben ça permet aussi qu'on les discute. Donc après, ça fait qu'on peut réfléchir ensemble sur un plan argumentatif. Et si ce sont des décisions qui partent de préjugés, par exemple, on va pouvoir les déceler, les casser et d'avoir des espaces de discussion pour ça, en fait. Si on assume et si on se dit pas, oh bah oui, j'ai juste. Si c'est pas juste des impensés. Du coup, voilà, c'est aussi peut-être se rendre compte qu'il y a des non-mixités qu'on n'utilise pas assez, et se rendre compte enfin que si on multiplie ces espaces, on peut croiser pas mal de personnes, parce qu'en fait, on peut se retrouver sur plein de choses. Alors là, on avait un petit peu envie de dire, on était deux personnes à avoir préparé l'émission, on est trois en studio et tout ça, mais du coup, que nous-mêmes, on avait plein d'identités différentes et plein de non-mixités dans lesquelles on peut se retrouver, et aussi plein d'autres dans lesquelles on peut pas se retrouver. Par exemple, moi, je suis 6. Et du coup, ça fait que la personne que j'ai en face de moi, elle l'est pas. Et du coup, si on fait une des non-mixités à propos de ça, ça va pas, on va pas être dans les mêmes non-mixités. Par contre, si on fait des actions à la piscine où on monte nos poils, ça, on peut y aller ensemble.
Eh ouais.
Voilà. Je sais pas si on en dit d'autres ou enfin voilà, sur les mêmes trucs, on peut dire aussi, ben moi j'ai une apparence féminine et du coup je vais vivre certains trucs dans les espaces publics que toi tu vas pas vivre les mêmes, quoi. Tout bonnement.
Tout à fait.
Donc voilà, et du coup, en fait, cette question de multiplier ces espaces où on peut se croiser et où on peut croiser d'autres personnes, ça permet aussi de faire émerger des discours sur plein de facettes de nos identités, de qui on est et de ce qu'on fait. Et aussi clarifier ce sur quoi se créent nos solidarités et rendre plus visible ce qu'on partage. Alors maintenant, on voulait continuer dans cette réflexion, dans ces réflexions qu'on essaye d'apporter depuis tout à l'heure, et essayer de réfléchir un petit peu aux problèmes posés par le fait qu'on définisse souvent les non-mixités par des identités, et du coup d'apporter un peu des pistes de réflexion pour qu'on réussisse à dépasser ça.
Ouais, c'est aussi comme peut-être des propositions à réfléchir. Par exemple, moi, je me demandais si vraiment on a défini des objectifs politiques clairs, eh ben, est-ce qu'on a besoin de définir les non-mixités avec des identités ? Parce que du coup, on parlerait de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire les objectifs politiques, et pas de ce qui nous sépare, ou pas des identités sur lesquelles on peut avoir des préjugés, ou etc. Et du coup, ça donnerait par exemple de pouvoir dire d'un espace que c'est un espace féministe, mais pas dire que c'est femme gwyn trans. Mais du coup, ça pose des problèmes aussi.
Ça pose des problèmes.
Et ouais.
Oui, bien sûr.
Parce que du coup, ça fait aussi que ça fait une invisibilité sur les identités qui sont là. C'est-à-dire qu'on va plus... parce que aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que poser des termes, enfin poser des identités dans des espaces, ça fait que ça les rend visibles. Et puis aussi de dire espace féministe et pas par exemple un espace non mixte femme gwyn trans, ça fait aussi que tout le monde peut se sentir légitime de venir finalement.
Oui, puisque après ça repose la grande question de qui peut se dire féministe. Ouais. Est-ce que des gars cis peuvent se dire féministes, tout ça. Et bon, du coup, on va avoir des pistes un peu par rapport à ça un peu plus tard dans la discussion. Mais aussi, ce qui posait problème avec ces questions d'identité, c'était que si on ne réfléchit pas ou si on n'en parle pas, en tout cas, ça peut fermer l'accès à des personnes qui se définissent pas dans ces 10 identités-là, ou qui sont en questionnement par rapport à ces identités, mais qui pourraient être légitimes dans ces espaces. C'est-à-dire que, par exemple, sur des non-mixités Gwyn, eh ben, il peut y avoir des meufs qui sont en questionnement ou qui vont être entre deux, à pas savoir vraiment ce que cette identité elle représente, etc. Et qu'en fait ça va pas lui permettre de vivre cette non-mixité là pour savoir si bah finalement elle s'y retrouve. Et que aussi à l'inverse, lister pour des espaces et dire c'est pas moi qui dois dire ça.
Non mais effectivement, on peut faire plutôt aller vers comme une liste des identités qui seraient dans ces espaces. Mais le problème aussi des listes, bon, d'une manière ça fait apparaître beaucoup plus d'identités, du coup c'est beaucoup plus inclusif, mais il y a aussi que les listes c'est jamais exhaustif, hein. On va toujours oublier des personnes, du coup est-ce que aussi faire une longue liste avec plein d'identités ça fait pas quand on en oublie une c'est encore pire, ou j'en sais rien, enfin un truc de dire ah oui je peux vraiment pas venir dans ces espaces ou un truc.
Bah ouais, parce que ça a été un retour qui a été fait plusieurs fois ces dernières années, mais notamment sur les non-mixités meufs Gwyn trans ou Gwyn trans, et ben ça comprend pas les personnes asexuelles qui pourtant se pourraient sentir complètement légitimes et auraient leur place dans ces non-mixités là, et comme c'est une identité aussi une identité politique qui est plutôt peu connue et invisibilisée, etc. Et ben encore une fois, ça rajoute une couche puisque ça ferme l'accès aussi à ces personnes-là, alors qu'elles pourraient se retrouver dans une non-mixité plus féministe, là, comme on disait un peu. Voilà.
Et il y a aussi que. Par exemple, moi je trouve un des soucis de la non-mixité femme Gwyn trans, c'est que c'est censé représenter trois classes qui existent de manière indépendante. Du coup, il y a femme, il y a Gwyn et il y a trans. Et sauf que dans la réalité, c'est pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça existe, c'est pas aussi vrai dans la réalité. C'est-à-dire que des Gwyn, en fait, elles vont pas. Enfin, elles se distinguent des femmes par rapport. Un peu à la citation de Monique Wittig, dans ce truc, la femme, elle existe parce qu'elle a son pendant, là, qui est l'homme, et les Gwyn, elles n'ont pas ce truc en face. Du coup, elles ne sont pas des femmes. Mais en fait, dans la réalité, on ne peut pas vraiment les distinguer, ou en tout cas, les Gwyn, elles vont se prendre aussi les mêmes trucs que les femmes dans la rue, ou même s'il y a des trucs qui diffèrent, je veux dire, il y a plein de trucs qui sont semblables. Et pareil pour les personnes trans. En fait, il y a des trans qui sont des femmes, il y a des trans qui sont des Gwyn, ou il y a des trans qui sont pris pour des femmes ou des Gwyn, etc. Et du coup, ça fait aussi que de séparer, d'avoir ces trois catégories qui ont quelque chose de politique, qui portent des choses politiques, mais qui en fait, dans la réalité, sont pas si distinctes, et ben ça complique aussi un peu les choses, quoi.
Tout à fait. Et du coup, on avait un peu ce questionnement là sur deux non-mixités qui sont un petit peu. Les plus courantes, on va dire, là, dans celles qu'on fréquente, puisqu'il y a d'un côté femme Gwyn trans et de l'autre côté transpédé Gwyn. Et du coup, la différence, c'est que transpédé Gwyn, c'est un seul mot. Et c'est une notion à part entière. Et que ça, c'est pas le cas, en fait, pour femme Gwyn trans ou meuf Gwyn trans. Et donc, la différence, c'est aussi que transpédé Gwyn, ça a émergé. Pour se distinguer d'un autre terme, du terme queer, parce que ce dernier était dévoyé, puisque il est arrivé plutôt par les canaux universitaires, et aussi parce que il est trop facilement réappropriable par les hétéros. Ça, c'est aussi les limites de l'autodéfinition, quoi. Ça, je le place là. Hein. Mais voilà, et du coup ça c'est pas possible avec transpédé Gwyn. Mais on se disait un peu, il nous manque quand même un mot qui permettrait de faire pareil avec meuf Gwyn trans là, d'avoir un mot qui puisse agir, enfin que des gars cis en tout cas puisse pas se réapproprier, puisse pas s'auto-définir comme ça, mais que pour autant ça soit un mot qui soit juste un mot, quoi, pour qu'on arrête de séparer les identités comme ça. Donc, proposition, inventons des mots.
Il faut inventer.
Voilà, et après, nous, on voulait, on va faire vite, on voulait discuter un petit peu d'outils pour, enfin, de comment faire, en fait, quand il y a des gens qui viennent dans des non-mixités et qui ne sont clairement pas concernés par ces non-mixités.
Une question, parce que ça se passe, du coup, on le sait, il y a des intrusions, c'est ça, enfin, je veux dire, ça existe, même si c'est pas forcément quelque chose qui est énorme. Enfin, il y a aussi un truc de pouvoir se dire que c'est pas forcément quelque chose qui va arriver où il y a 10 personnes qui vont débouler et qui n'ont rien à faire dans les espaces. Des fois, et la question, c'est est-ce que c'est plus un truc qu'on a un doute, ou, enfin, je veux dire, des fois, ça peut être ça, on a une suspicion, on a un doute, mais on sait pas vraiment, et auquel cas. À des moments, peut-être aussi, on peut se dire, c'est pas grave si la personne elle-même, elle s'est pas visibilisée comme étant correspondant pas à ses non-mixités, et si le groupe il est pas non plus dérangé par le fait que cette personne elle soit là et tout ça, et peut-être on peut se dire, c'est pas très grave, et ça évite de passer plein d'énergie à se dire merde, mais est-ce qu'on doit lui dire dégage parce que t'as rien à faire là? En même temps, on sait pas, alors peut-être on fait une méga boulette si on va lui dire, alors qu'est-ce qu'on fait, blablabla, peut-être on peut se dire, c'est pas grave en fait, passe à autre chose, et tant qu'il n'y a pas un truc hyper clair que cette personne elle a rien à faire là, on lui laisse le bénéfice du doute ou un truc comme ça.
Tant qu'il y a le comportement de la personne et reste correct et qu'il n'y a pas de conséquences sur l'objectif politique qu'on avait, on peut aussi s'en foutre, quoi, si ça ne gêne pas. Plutôt, et aussi, on se disait que ça peut être bien à chaque fois de rappeler, de différentes manières, mais quelle est la non-mixité, voire d'expliquer aussi pourquoi c'est cette non-mixité-là, sans être dans un truc de justifier de cette non-mixité, mais justement de lui donner du sens politique, et que ça peut faire que les personnes qui n'ont pas à être là, elles partent d'elles-mêmes, et même le dire, le proposer. Donc voilà, maintenant qu'on a expliqué, vous pouvez partir si vous trouvez que ça ne vous correspondait pas et que vous n'avez pas à être là, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, proposer ça. Du coup, voilà.
Ouais, c'était ça. Et puis, si vraiment c'est évident que la personne elle est en décalage, qu'elle porte un discours qui est en décalage, ou ça se voit en tout cas qu'elle a rien à faire dans ces espaces, et tout simplement de lui dire maintenant, je pense, t'es pas à ta place ici, et du coup, je pense que c'est bien que tu partes. Ou, voilà.
Et puis, par rapport au fait de ce qu'on disait tout à l'heure, là, sur des personnes qui peuvent être en questionnement, ça peut aussi être en début, soit en début, quand c'est des groupes, etc., ou d'afficher ou de prévenir, mais d'expliquer, en fait, si c'est ouvert ou non à des personnes qui sont en questionnement sur ces identités-là. Du coup, c'est toujours possible, en fait, plus on assume un peu et plus on a réfléchi à ce qu'on veut faire, et plus c'est possible. Voilà. Bon, on va conclure.
On va conclure, tout à fait. Voilà, en tout cas, on espère que c'était pas trop dense et que ça vous a permis de réfléchir autour de cet outil politique qu'on trouve vraiment important et nécessaire, du coup, qui est la non-mixité. Et l'objectif de l'émission radio, c'était d'oser s'emparer et de re-questionner la non-mixité pour renforcer cet outil, mais aussi pour renforcer nos luttes, pour renforcer nos solidarités, parce qu'on peut encore l'améliorer. Et tout ça, pourquoi ? Pour renverser et détruire l'hétéropatriarcat, bien sûr.
Bien sûr. Et juste pour dire que nous, on va faire une deuxième émission aussi où ça sera possible d'apporter des contributions sur ces réflexions-là.